Être et savoir, Louise Touret.
Être et savoir, c'est la nouvelle formule du magazine de l'éducation de France Culture pour cette rentrée 2018. Cette année, nous continuons d'élargir le champ de nos réflexions puisque l'éducation n'est pas qu'une affaire scolaire. Ainsi, nous allons aborder la transmission des savoirs sous toutes ses formes et partout, cadre académique, dans la famille, sur les écrans, à travers la culture, dans les espaces professionnels. Et nous nous ouvrons encore davantage au thème de l'enfance, de la jeunesse, de la parentalité et des relations intergénérationnel. Notre premier sujet de l'année correspond parfaitement à ce programme puisqu'il s'agit de l'éducation sexuelle. À la fin d'Être et savoir, un artiste nous raconte son enfance et ses années d'apprentissage. C'est la leçon de choses de Sophie Bobert. Cette semaine, Sophie a rencontré le chanteur et écrivain Yves Simon, une personnalité qui a beaucoup aimé l'école et pour qui la rentrée était toujours synonyme de beauté. Oui, oui, rendez-vous à 17h53. Éducation sexuelle. Ces deux mots, éducation sexuelle, mis ensemble et bim, les réactions pleuvent. Lors de sa conférence de presse de rentrée, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a réaffirmé que la mission de l'école était bien de s'occuper de ce sujet. Il a parlé de ventilateur à fantasme. La formule convient bien à ce qui s'est passé cet été après l'annonce de Marlène Schiappa de rendre effectives les 3 séances obligatoires d'éducation sexuelle. Elles sont prévues par le Code de l'éducation de 2001. C'est la loi. Et mercredi, en marge de la conférence de presse, on apprenait qu'une nouvelle circulaire, d'ailleurs, paraissait dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, sur le sujet. Et on réfléchit même au ministère à changer de terme, peut-être, à changer éducation sexuelle. En tout cas, c'est ce qui m'a été confié. Alors, les réseaux qui s'étaient mobilisés contre les ABCD de l'égalité, il y a un siècle, pensé en 2013, eux contre le mariage pour tous, refont surface. Fausses rumeurs, tentatives d'intimidation, utilisation d'accusations extrêmement violentes. Voilà pour le contexte. Contexte dont on parlera, mais dont il faut aussi s'abstraire. Car ses ennemis, la liberté, agitent des peurs pour empêcher tout le monde de réfléchir et pour empêcher les enfants de parler, alors qu'on sait trop bien que le silence qui pèse sur les questions sexuelles est bien l'allié de l'isolement, de la violence et des formes les plus archaïques de domination. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons réfléchir aux objectifs, aux moyens, aux méthodes et à la réflexivité qui s'engage avec l'éducation sexuelle, au combat que se livrent l'ignorance et le savoir sur ce sujet. Et enfin, et je voulais l'ajouter, je considère le sexe comme un sujet éducatif, puisque parler de sexe, c'est s'interroger sur soi, interroger les normes, construire son esprit critique et dialoguer. Un excellent programme. Je salue tout de suite mes invités. Véronique Seyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente du planning familial, membre du Conseil économique, social et environnemental. Le slogan du planning, c'est liberté, égalité, sexualité. Avec un S. Voilà. Vous intervenez donc dans les établissements scolaires et auprès des jeunes.
Et autres établissements scolaires, auprès de personnes en situation de handicap également, et CFA, enfin tous les milieux où des jeunes souhaitent l'intervention de personnes.
Pour parler d'éducation sexuelle, et on verra aussi comment, parce qu'il y a des méthodes qui ont été développées. Michel Bozon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche à l'INED et directeur adjoint de l'Institut du genre. Vous avez publié de nombreux ouvrages, des rapports aussi sur la sexualité des Français. Alors je vais citer Sociologie de la sexualité chez Armand Collin. C'est la 4e édition enrichie qui va paraître le 16 septembre. Et puis Pratique de l'amour, plaisir et inquiétude. Ça a paru en février dernier chez Payot. Mikyung Yi, vous êtes psychanalyste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychopathologie clinique à l'UFR d'études psychanalytiques de l'Université Paris Diderot. Et vous avez notamment publié L'enfant impossible, c'est au PUF, et c'était en 2015. L'éducation sexuelle, elle a été instituée en France en 1973. Alors, pour commencer un petit peu sur un sourire, on va écouter deux archives. D'abord, ce qu'on en disait dans les années 50. Vous allez l'entendre, c'est assez étonnant.
Je tenais à dire personnellement une chose peut-être contestable, et qui est la suivante, c'est que je crois qu'il est d'une mauvaise technique de dire aux enfants, lorsqu'ils interrogent sur la façon dont ils sont venus au monde, tu es venu, toi, le petit garçon, dans un chou, ce qui donnera à penser que les Belges sont nés tout petits puisqu'ils ont dû naître dans les choux de Bruxelles, et toi, petite fille, tu es née dans une rose. Ou bien encore, vous avez été apporté par des cigognes. Je crois que c'est mauvais parce que c'est mentir aux enfants, c'est ne pas leur dire la vérité.
C'est le docteur Logre qui s'exprime à l'époque, ne pas dire la vérité aux enfants. On a l'impression qu'en fait, quand même encore aujourd'hui, des gens qui préféraient revenir à cette période. Et puis, on va passer aux années 70. En fait, c'est totalement lié à la loi Neuwirth sur la contraception. Et là, c'est un recteur qui s'exprime sur l'arrivée de l'éducation sexuelle à l'école.
En ce jour de rentrée, après les vacances de Noël, on l'a appris ce matin, des cours d'information sexuelle seront dispensés dans les établissements dès la prochaine rentrée scolaire. C'est ce qu'a décidé le ministre de l'Éducation nationale, M. Fontanet, qui n'a donc pas attendu le vote à l'Assemblée nationale de la loi Neuwirth. L'école, a d'ailleurs souligné M. Fontanet, ne peut plus se désintéresser de cet aspect de la formation des jeunes.
Il s'agit en effet de cours d'information sexuelle, c'est-à-dire de cours scientifiques donnés dans le cadre des programmes de biologie, physiologie, anatomie de l'enseignement du second degré à tous les niveaux. Et ces cours seront assurés par les professeurs de sciences biologiques qui étudieront avec toutes les fonctions de l'organisme, en particulier les fonctions de reproduction.
Alors, pour avoir visionné des archives sur le site de l'INA, par exemple, on voit que ces cours n'éduquaient pas vraiment à la sexualité. On ne parlait pas de sexualité, on parlait à peine de contraception. On voyait les organes reproducteurs. Et puis, c'était en fait assez médical, Véronique Seyer.
Oui, tout à fait. Hein. C'était une information. C'était effectivement après la loi Neuwirth. La contraception était maintenant accessible alors qu'elle était interdite en France avant. Il y avait aussi la volonté de faire en sorte que, avec cette nouvelle pilule à disposition, les femmes ne fassent pas n'importe quoi. Ça, je pense qu'il y avait vraiment une volonté de contrôle de la sexualité des femmes qui déjà s'inscrivait dans cette proposition qui était faite à ce moment-là. C'est seulement après qu'on abordera la question d'éducation.
On voit, quand on parle de sexe et d'éducation, le mot peur n'est jamais bien loin. Alors, dans les débats, évidemment, pas ici. Michel Boson.
À l'époque, l'information sexuelle qui est mise en avant est distinguée d'une éducation sexuelle qui est possible, mais qui est réservée à la famille, hein, qui est considérée comme une éducation morale. Alors, elle peut être proposée dans les établissements scolaires si les parents sont d'accord. Et ce sont les parents qui choisissent les intervenants. De fait, ça n'a pas été très très suivi. Ça va peu à peu devenir désuet.
On a l'impression qu'on est toujours à la limite du tabou, Mikungi, quand on écoute les adultes et les précautions qu'ils prennent dans les archives. Est-ce que vous avez l'impression que cette période est loin ou que finalement, quelque part, toutes ces précautions existent encore et se retrouvent encore chez les interlocuteurs d'aujourd'hui ?
Disons que par la force, on est obligé de constater que ça existe toujours. Hein, il y a des craintes, des appréhensions, des soupçons même, et qui s'expriment de façon récurrente. Ça tient au fait que la sexualité humaine s'inscrit à la fois dans l'intimité de tout un chacun, et en même temps relève aussi de ce qu'on appelle la santé publique, c'est-à-dire du fait que ça implique quand même le registre interpersonnel.
Et de ce fait, on renvoie souvent à la famille, alors que la famille, c'est un peu l'endroit le plus compliqué pour beaucoup pour parler de sexe.
Mais justement, puisque la sexualité est quand même fondamentalement aussi une affaire d'intimité, et cette idée justifie au fond deux positions quasiment antagonistes, puisque c'est une affaire d'intimité. Les parents pensent que c'est préférable que ça reste dans le cercle familial,
des parents,
et alors que justement de l'autre côté, puisque ça concerne aussi l'intimité des parents, qui sont quand même les premiers protagonistes impliqués dans l'esprit des enfants en matière de sexualité. Et donc c'est compliqué pour les parents de prendre en charge complètement la dite éducation sexuelle de leurs enfants.
Ce qui m'a étonnée dans les déclarations de Marlène Schiappa, c'était de redécouvrir à quel point l'éducation sexuelle qui est inscrite dans la loi, je l'ai dit en tout début d'émission, n'était en pratique pas effective, puisqu'il y a bien des établissements qui ne le font pas. On parle de 3 séances par an. Ça date de 2001. Qu'est-ce qui explique que ça n'ait pas été plus massivement mis en place à vos yeux, Véronique Seyoux?
Alors, je pense que c'est important ici de mentionner le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2016. La commission santé de ce Haut Conseil a fait tout un travail sur l'éducation à la sexualité. Il en ressort que à peu près 25% des établissements interrogés ont dit avoir mis en place des séances d'éducation à la sexualité. Par exemple, ce qui est quand même très peu. La loi de 2001 dont vous parlez parle bien d'éducation à la sexualité de 3 séances par an et par année d'âge, depuis l'école primaire jusqu'à la terminale. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans la façon dont elle est mise en œuvre, c'est souvent en 4e, 3e qu'on l'évoque quand on parle de reproduction. C'est souvent une approche à la fois sur les questions de reproduction. Donc, quand on parlait de normes tout à l'heure, ça veut dire qu'effectivement, la norme, eh bien, c'est l'hétérosexualité. Et que d'autre part, quand on parle aussi d'éducation à la sexualité, c'est aussi une approche, le plus souvent, par les risques. Hein, on a parlé tout à l'heure de la loi Neuwirth, on peut aussi évoquer la question du VIH et du sida. Donc, bien souvent, des interventions sont des interventions qui consistent à dire attention aux grossesses, attention au VIH et au sida.
Alors, et ce n'est pas suffisant à vos yeux?
C'est une approche très hygiéniste, entre guillemets, très santé, qui est importante, qui a comme objectif de faire de la prévention, mais qui est largement insuffisante. Ce qui est important, quand on évoquait tout à l'heure les mots, c'est de pouvoir mettre des mots, c'est de pouvoir répondre aux questions que se posent les enfants, c'est pouvoir aussi, et quand on fait de l'éducation à la sexualité, c'est de ça dont il s'agit, être dans la relation à l'autre, dans une attitude, enfin, je veux dire, quand on fait l'éducation à la sexualité, c'est pas simplement transmettre des savoirs, c'est pouvoir travailler sur des attitudes, des comportements, des valeurs, avec l'objectif de faire en sorte que ces enfants et ces jeunes puissent faire leur propre choix. C'est vraiment une éducation à l'autonomie, à l'émancipation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important.
Michel Boson, je vous ai vu réagir sur le chiffre de 25% et je voulais aussi vous interroger sur cette volonté de savoir, parce que concernant la sexualité, on est presque certain qu'il y a une volonté de savoir chez les enfants et volonté de savoir. C'est un terme qu'a utilisé Foucault dans ses leçons sur la sexualité au Collège de France.
Il est très difficile de savoir combien d'établissements en France proposent une éducation à la sexualité parce que l'éducation nationale ne communique pas là-dessus. Ça pourrait être un appel à donner une véritable information là-dessus, mais on peut penser qu'en effet, pas plus d'un quart des établissements sont concernés. Donc, on parle beaucoup de l'éducation à la sexualité, mais on n'en fait pas tant que ça. Et les projets d'éducation à la sexualité surgissent beaucoup quand il y a eu un événement dans un établissement, ce qui est évidemment pas la bonne manière de faire. Hein. C'est pas parce qu'il y a une jeune fille qui est tombée enceinte ou un phénomène de violence qui s'est produit. Alors là, on appelle en urgence des intervenants qui vont devoir éteindre le feu. C'est pas ça de l'éducation à la sexualité, et c'est encore trop souvent comme ça. Mais ça vient de ce que cette éducation est obligatoire mais n'est pas valorisée. Elle n'est pas encouragée dans les politiques publiques. Hein. Il y a une. On pourrait montrer ce que ça serait un véritable encouragement à l'éducation à la sexualité du point de vue des politiques publiques.
Ça passerait par des fonds plus importants qui seraient alloués, parce que par exemple là, la parole politique, elle est là.
Il y a très peu d'argent pour le faire. Le premier problème quand on veut monter un programme d'éducation à la sexualité, c'est de savoir comment le financer. Donc on doit chercher de l'argent de partout. On arrive rarement à financer plus d'une séance. Puis la formation des enseignants, puisqu'on sait que les intervenants sont de deux origines. Hein. Il y a une part des intervenants qui font partie du personnel des établissements, principalement principalement des professeurs, mais aussi d'autres personnes. Ça peut être des CPE, bon, des infirmières scolaires, oui, etc. Bon, tout à fait, oui. Et puis, ce sont des membres d'associations habilitées. Hein, bon, donc des associations d'éducation populaire reconnues, hein, qui produisent cette éducation à la sexualité.
Alors on se concentre sur l'école parce que on a l'impression que c'est là qu'on peut agir collectivement. Pourtant, l'éducation sexuelle, elle se fait aussi beaucoup ailleurs, puisque cette volonté de savoir des enfants, eh bien, elle va trouver des réponses partout sur plein de supports. Alors on pense un peu facilement au porno, mais évidemment, il n'y a pas que ça, même si il peut y avoir des inquiétudes légitimes sur la circulation des images en ligne. Mikyungi, est-ce que c'est à l'école que ça doit se passer? Parce que c'est un endroit collectif où il y a des enfants. Est-ce qu'il faut aussi peut-être trouver d'autres endroits où faire passer le savoir et faire savoir que le savoir se trouve aussi là?
Je pense que c'est un travail, un processus qui doivent se poursuivre en fait tout au long du développement de l'enfant. Ce qui veut dire que on doit tenter de répondre à cette. Vous parlez de la volonté de savoir, ce qui est pour moi un peu une expression déjà un peu secondarisée par de ce qu'on pourrait appeler plus, disons directement, les curiosités sexuelles chez l'enfant. C'est un besoin, une pulsion de savoir. On a besoin de répondre à ce besoin de savoir en fonction des phases de développement que l'enfant en traverse, mais aussi en fonction des questions qui émergent de façon plus ou moins générale, plus ou moins spécifique à chaque enfant.
Et c'est là qu'on revient peut-être à ce document du HCE, mais il y a aussi des standards élaborés par l'OMS, parce qu'évidemment, suivant les âges, on ne va pas dire les mêmes choses. En fait, ça, c'est assez clair, en tout cas dans les documentations qui s'adressent aux éducateurs, et puis parfois aussi aux familles. Véronique Seyer.
Oui, et je pense que c'est important puisque Michel a évoqué la question de la formation des enseignants. C'est la formation de toutes les personnes en situation d'éducation avec des enfants. Et un autre point qui me paraît essentiel aussi, c'est la notion de coéducation. C'est-à-dire que l'école ne peut pas tout faire, mais l'école a un rôle absolument essentiel puisqu'elle accueille tous les enfants. En complément de la famille, en complément des autres lieux d'éducation. De toute façon, un jeune qui veut avoir des connaissances, il va aller les chercher. Il va aller les chercher avec ou sans l'adulte. Donc je pense que c'est absolument important que l'école puisse répondre aux questions des jeunes, qu'elle puisse aussi les former à l'esprit critique, qu'ils puissent faire le tri aussi dans les informations, parce qu'on est bombardé d'informations en tout genre. Et je pense que le rôle de l'école, c'est vraiment de permettre de faire le tri dans les informations. Et c'est quelque chose qui est essentiel. On ne va pas interdire aux enfants des modes d'accès à la connaissance. On peut leur permettre de faire le tri dans les bonnes informations. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et puis, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, c'est vraiment un développement, enfin prendre en compte le développement des enfants à chaque âge. Parce que les questions qui se posent ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que
Est-ce que ça doit partir des questions des enfants?
Bien sûr que ça, c'est évident. Et c'est pour ça que, par exemple, au planning, c'est essentiel pour nous d'avoir des temps où il y a des personnes qui peuvent effectivement écouter l'enfant, partir de ses questionnements, mettre en valeur les savoirs des enfants, parce qu'ils savent beaucoup de choses. Et donc, quand on est dans une démarche d'éducation populaire, on s'appuie aussi sur ce qu'ils disent. Et vous, vous en pensez quoi? Et pour vous, ça se passe comment? Et du coup, on arrive à un partage d'informations entre les élèves qui sont pas là dans une attitude d'une transmission d'un savoir magistral, mais qui sont en train de construire ensemble un savoir collectif. Ça, je pense que c'est important.
Michel Boson, sur ce questionnement des enfants.
D'ailleurs, une des méthodes les plus fréquentes et qui existe déjà depuis longtemps, hein, c'est les questions des élèves. Hein, c'est les fameux petits papiers pliés en 8 où ils disent, qu'est-ce que c'est que la sodomie. Hein, oui. Bon, donc voilà, j'ai réussi à dire sodomie à l'émission. Hein, bon. Bon, une chose que je voulais dire dans le prolongement de ce que disait Véronique, c'est que, en plus de l'éducation à la santé, voire l'éducation aux médias, comme un des outils qui devrait être mis en avant dans une éducation à la sexualité. Parce que, évidemment, Internet est une très belle chose. Il trouve dedans des émissions sur YouTube, où il y a des émissions passionnantes, intéressantes, qui sont tout à fait dans le langage qui convient. Il trouve des blogs sur la sexualité également remarquables.
On mettra des liens sur le site d'Être et Savoir.
Évidemment, quand on parle d'Internet, des parents qui sont pas très à l'aise sur Internet, les pauvres. Leurs enfants le sont bien plus, élément de leurs préoccupations, eh bien disent la pornographie.
Alors, il y a tout de même une pétition qui réunit des médecins, des gynécologues, c'est emmené par Israël Nizan, qui prévient des risques et voilà, il répercute des choses qu'il entend de ce que disent des adolescents et qui peuvent également inquiéter.
Oui, alors, je pense que sur la sexualité explicite, sur les vidéos pornographiques, elles sont extrêmement faciles d'accès. Croire que les jeunes ne savent pas que c'est du cinéma est très exagéré. Quand ils voient des films policiers où on tue une personne toutes les 10 minutes, est-ce qu'ils pensent que c'est la représentation de ce qu'ils doivent faire ? Non. Par ailleurs, on peut penser que, tout cela prospère sur un certain nombre de manques dans l'éducation à la sexualité. Je vais pas recommander, mais où est-ce qu'on entend parler du plaisir et du désir ? C'est absolument pas possible d'en entendre parler. Sans doute, dans l'éducation à la sexualité.
On peut en parler.
Bon, c'est assez peu présent.
Oui,
bon.
C'est vrai.
Alors,
tout à fait.
Bien ou mal, ce thème est abordé. Voir des corps, on le voit très très peu dans l'éducation à la sexualité. Bon, alors, donc, ça peut. Et s'il y a cette éducation aux médias que je recommande, on peut travailler sur ces aspects-là aussi. L'interdire. Bon, c'est quelque chose de tout à fait illusoire et qui ne peut que renforcer le désir et la curiosité de le voir. En revanche, ce qui est peu traité dans l'éducation à la sexualité, d'après l'enquête du HCE, ce sont des aspects comme la violence sexuelle qui n'est pas abordée dans les séances. Je pense aux questions d'orientation sexuelle. On est censé lutter contre l'homophobie, mais apparemment sans parler d'homosexualité. Je ne sais pas comment on fait. Et puis, une grande question, c'est celle de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et toutes ces questions, on va y revenir dans la deuxième partie. Y venir, je voulais quand même entendre la psychanalyste Mick Kyung-hi pour nous dire, est-ce que vous pensez que l'éducation sexuelle doit être plus explicite, vous ?
Alors, si vous permettez, je voudrais juste revenir sur la question justement des questions auxquelles il faut répondre selon leur rythme, leur moment d'émergence. Oui, tout à fait, mais encore faut-il que les enfants sentent autour d'eux un environnement adulte suffisamment réceptif, suffisamment compréhensif et disposé à accueillir les questions qui arrivent. Et les enfants sont un peu des antennes très sensibles. Ils savent très bien quelles sont les questions à ne pas soulever, à ne pas poser, et surtout s'agissant des parents en proches. Et puis un autre point, c'est très intéressant effectivement de voir quelles sont les questions que les enfants posent, mais c'est aussi intéressant de voir quels sont les mots employés pour poser telle ou telle question. C'est là aussi où on se rend compte d'un point qui me paraît très important, qui est aussi source de pas mal de débats et de malentendus. C'est une confusion entre les mots que les enfants emploient, sollicitent, et qui appartiennent à leur vie psychique, et la langue, les mots employés par les adultes. Par exemple, nous, en tant qu'adultes, on pense que voilà, l'information dite sexuelle en termes scientifiques ne serait qu'éclairant, ne prêterait absolument pas à confusion. Juste un exemple. Du coup, voilà, au lieu de dire les garçons dans le cheveu, la fille dans le rose, maintenant c'est grain de papa dans le ventre maman, voilà, d'autres métaphores botaniques, etc., qui datent, mais qui sont encore employées dans certains discours intrafamiliaux. Et un enfant qui dit « moi, tu sais comment on fait les bébés, un petit garçon ?» Et comment ? Bah, c'est un petit garçon de 4 ans. C'est avec supermatozoïde. Il a reçu une information scientifique comme il faut, mais il l'a intégrée à sa manière.
Supermatozoïde.
On fumait des gauloises bleues. Souvent deux, ah, ah, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine, ah, ah, les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Allez, bonjour. Allez, bonjour. Dylan cultivait sa terre quelque part en Angleterre. Allez, bonjour. Jefferson Airplane s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutique à music hall, au boulevard du rock'n'roll. Ah, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuiter les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy.
Elle s'appelle Clou, et elle reprend les Gauloises bleues. C'est un extrait de l'album hommage à Yves Simon, Génération éperdue. Yves Simon, on le retrouve dans la leçon de choses en fin d'émission. C'est aussi l'occasion de repenser à Diabolomante, un film qui parle beaucoup d'éducation sexuelle. C'est le sujet d'Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Alors, parmi les questions que nous n'avons pas encore abordées, ou en tout cas complètement abordées, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur de l'éducation sexuelle. Alors, vous allez me dire à partir de quel âge ou comment on peut en parler suivant les âges. La question du genre, la question de l'orientation sexuelle qui fait très peur, cette question de l'orientation sexuelle, puisqu'elle est agitée comme un épouvantail, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, soit on va apprendre aux enfants à se masturber, ce sont vraiment des rumeurs, soit l'homosexualité imposée, des fantasmes. Mais cette orientation sexuelle, est-ce qu'on en parle vraiment quand on parle d'éducation sexuelle avec des enfants et des adolescents, Michel Bozon?
Il y a une tendance, hein, d'après les directives de l'éducation nationale, à considérer, ce qui est assez étrange, que c'est un problème privé et que on ne devrait pas en parler à l'école, comme si l'hétérosexualité dominante n'était pas un problème privé aussi, alors qu'elle est présente tout le temps. Donc, on est censé lutter contre l'homophobie, mais sans pratiquement jamais parler de l'homosexualité ou en renvoyant les personnes qu'on sent concernées vers des ressources extérieures, comme on dit. Hein. Et comme si ça ne devait pas être quelque chose qui est pris en charge, cette question, la question des discriminations, la question des stéréotypes qui existent par toute l'école.
Parce qu'on a vu, même pour les ABCD de l'égalité, qui remettaient en question non, qui proposait, les ABCD de l'égalité, qui proposait de s'intéresser aux normes de genre, à quel point la contestation, en tout cas l'ampleur qu'elle a prise, et puis les polémiques suscitées, bien ça a tout de même abouti à un abandon de ce programme. Véronique Seyé, sur ces thèmes, orientation sexuelle, et puis cette inégalitarisme tranquille parfois, et là je reprends un terme de Michel Bozon, quand on parle de sexualité et quand on parle des filles et des garçons, des hommes et des femmes dans le cadre de la sexualité.
Oui, je crois que c'est important de... Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de santé, hein, qui est, que c'est une affaire de santé publique, mais c'est aussi une question de droits humains, et de droits humains fondamentaux. Et quand on parle des droits humains, c'est le droit de chacun de vivre librement sa sexualité, sans être discriminé, en raison de son orientation sexuelle et de son genre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Quand on évoquait en début d'émission le fait que le planning, son slogan, c'était égalité, sexualité, avec un S, les deux mots ont beaucoup d'importance. Liberté, égalité, sexualité. L'objectif de l'éducation à la sexualité, c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre sa sexualité sans jugement et de façon positive. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir parler de toutes les sexualités, et qu'en parler, c'est pas inciter, parce que c'est vraiment ça la peur fondamentale. Alors l'école ne peut pas tout faire, donc c'est important qu'il y ait des personnes extérieures qui puissent venir en parler avec les personnes, avec les jeunes, mais que aussi on puisse leur donner des lieux ressources où ils peuvent aller discuter de sujets qui les intéressent.
Oui, mais ça ne va pas forcément de soi.
Non, ça ne
les
va pas
adolescents
de soi.
Sont aussi des grands amoureux des normes et des normes de genre. Alors, pas tous, mais un certain nombre. Et ce sont souvent eux qui dominent. Et c'est ça qui est difficile. Rue des Écoles, l'année dernière, on avait fait une émission sur les insultes. Elles sont souvent à caractère sexuel, accablant les uns et les autres d'être trop ceci ou trop cela. En gros, on traite d'homosexuels ou de putes. Et tout ça, ça a bien un caractère sexuel. Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre partout?
Mais bien sûr. Et ça, je crois que c'est important. Par exemple, partir de ces mots-là, de ces insultes, partir de ces insultes, pouvoir les nommer, dire ce que ça veut dire vraiment, et pouvoir travailler avec les enfants sur ce que ça fait quand on nous le dit, ça. Ça, ça fait partie des séances d'éducation à la sexualité. Pourquoi est-ce que une fille est une pute à partir du moment où c'est une fille dite facile? Pourquoi est-ce qu'un garçon qui a l'air un peu efféminé, il est traité de pédé? Et à partir de là, on peut travailler effectivement sur ces normes du masculin, du féminin, et on va pouvoir ouvrir un champ des possibles pour tous les enfants. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Les enfants ont besoin aussi de se sentir en sécurité par rapport à ça.
En sécurité les uns par rapport aux autres.
Les uns par rapport aux autres, par rapport aux adultes. Et il faut que nous puissions travailler ça quand on travaille de l'éducation à la sexualité.
On a parlé du porno, mais on peut parler aussi de la culture telle qu'elle circule, des représentations hommes-femmes. Cette année, c'est beaucoup posé la question du consentement et en tout cas de la manière dont on l'appréhendait dans la société. Alors je vous propose un petit extrait de film, La Guerre des Étoiles.
I like the sound of that.
Stop that.
Stop what?
Stop that. My hands are dirty.
My hands are dirty too. What are you afraid of?
Afraid?
You're trembling.
I'm not trembling.
You like me because I'm a scoundrel. There aren't enough scoundrels in your life.
I happen to like nice men.
Nice men.
Very nice.
Alors, on doit la mise en avant de cet extrait au scénariste David Wong. En effet, dans La Guerre des Étoiles, Han Solo et la princesse Leia, Harrison Ford et Carrie Fisher nous jouent cette scène où elle lui demande d'arrêter. Il revient à la charge, il revient à la charge, il revient à la charge et finalement, elle cède. C'est une scène qu'on retrouve dans des dizaines de films, et d'ailleurs avec ce même acteur Harrison Ford, et oui, des scènes où on montre que forcer une femme, finalement, c'est assez efficace comme méthode de séduction. C'est dénoncé aussi par le nouveau féminisme d'aujourd'hui, qui est très mobilisé sur les réseaux sociaux. C'est facile d'aborder ces questions avec des adolescents, la question du consentement de l'autre ou du consentement de soi, Mi Kyung-hee.
Oui, bien sûr. Dans le rapport à l'autre qu'implique la sexualité, évidemment, on doit respecter, entendre le désir, le refus de l'autre. Alors, moi, je vais soulever peut-être une question un peu délicate. Mais justement, dans l'éducation sexuelle, par exemple, je ne sais pas si vous avez été confronté à une question, par exemple, de la part des adolescents, notamment, concernant le fantasme et la différence entre le fantasme et la réalité du rapport sexuel. Et je pense que pour les adolescents, il y a une confusion permanente pour les jeunes, pas seulement pour les jeunes, pour les adultes, entre ces deux registres.
Pas forcément une confusion, enfin pas toujours une confusion, enfin moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que là on aborde aussi à travers l'extrait qui a été fait là, c'est aussi le fait qu'on considère qu'un garçon peut tout se permettre parce qu'il a des pulsions irrépressibles, alors qu'une fille, si elle dit non, mais elle a peut-être quand même envie de dire oui, et puis une fille elle va céder, et c'est un peu logique, enfin ça fait partie du jeu de la séduction, alors que c'est pas ça du tout. Enfin je crois que c'est vraiment important aujourd'hui justement de montrer qu'il n'y a pas des pulsions irrépressibles chez les garçons. Là, on revient à la notion du désir aussi, écouter le désir de la fille, le côté le désir du garçon, et on n'est pas que dans des rapports non plus hétérosexuels, hein, ça je crois que c'est important. C'est vraiment des choses qu'on travaille quand on fait qu'on doit travailler quand on fait de l'éducation à la sexualité.
Et vous nous redites que ces discussions-là, on peut les mener partout, c'est une question de méthode, d'écoute. On peut arriver dans des types d'établissements du rural au populaire, ou l'établissement de centre-ville. Enfin, par exemple, on est avec une classe entièrement de garçons.
Et c'est pour ça que c'est important, justement, de créer le climat qui permet d'aborder ces sujets-là au sein de l'école. C'est-à-dire que bien souvent, quand on fait de l'éducation à la sexualité, on fait pas de l'éducation à la sexualité dans un grand groupe et de façon magistrale. Hein, on crée le climat qui va permettre ça. C'est pas ça qu'on va aborder dans la première séance. Dans les premières séances, on va d'abord partir des questions des enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment parce qu'on se sentira en confiance qu'on pourra aborder ces sujets-là. Mais en même temps, la question des normes masculin, féminin, la question du respect du oui ou du non, la question du désir et de l'expression du désir. Les filles peuvent exprimer leur désir autant que les garçons. C'est des choses qui doivent absolument être abordées quand on travaille sur l'éducation à la sexualité. La sexualité est quand même une construction sociale. Ça, je crois que c'est important de le dire. Et on a construit du masculin et du féminin, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir aborder ces sujets-là quand on travaille de l'éducation à la sexualité, d'où l'importance de la formation des personnes qui vont intervenir dans ces séances.
Michel Bozon, vous vouliez réagir.
Deux mots sur les fantasmes, pour prolonger un peu. Les fantasmes interviennent beaucoup dans une activité dont on parle pas beaucoup en éducation à la sexualité. Alors je dis pas que ça soit possible, mais c'est la masturbation. Hein, bon, qui est quand même une des grandes expériences des garçons adolescents, avant même la violence sexuelle.
Et des
filles un petit peu moins. Bon, c'est le sociologue qui parle. Et en général, elles commencent plus tard et en général avec moins de fantasmes. C'est-à-dire que c'est pas forcément une activité liée, comme elle l'est quasi totalement chez les garçons, à une activité fantasmatique. Hein, bon, ça peut être une activité plus physique. Bon, alors, la masturbation, est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait parler en éducation à la sexualité? Je n'en sais rien, j'ai pas de réponse. Mais c'est une des réalités de l'adolescence.
Tout à fait.
Quand même très très forte, même de la préadolescence, hein, pour les garçons notamment. Hein, bon. Alors, un autre aspect dans la demande de respect, d'égalité, ou le travail sur les insultes, il y a prendre au sérieux le problème de la réputation. hein, bon, qui est un problème extrêmement important, notamment pour les jeunes filles, qu'il faut mettre en avant si on veut vraiment faire une éducation non sexiste. Mettre à bas la réputation d'une fille, ben c'est criminel. C'est quelque chose qui ne fait pas partie du respect, et donc on peut sensibiliser à ça assez tôt. Et je crois que c'est la manière d'aborder aussi, la manière, enfin, on aborde de manière trop technologique le problème des revenge porn, du sexting, de l'envoi d'images. Bon, c'est simplement toujours la même histoire de ruiner la réputation d'une fille pour se venger. C'est un très vieux problème. C'est pas un problème lié à Internet du tout. Hein, bon, donc je crois qu'il faut l'aborder comme ça avant d'avoir peur d'Internet.
Et je pense que c'est vraiment important de l'aborder parce qu'on le voit bien très concrètement quand on intervient dans des lycées, dans des collèges, combien ça peut être d'une violence absolument extrême et faire que des filles aient peur de venir à l'école. Donc c'est important d'en parler quand on fait les séances d'éducation à la sexualité, de savoir ce qui est derrière, et puis de créer aussi un climat de solidarité avec ces filles-là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, ça.
Quelque chose que j'avais envie de dire, c'est il serait important qu'il y ait des intervenantes et intervenants plus jeunes aussi. C'est-à-dire que, justement, dans l'éducation aux médias, un des grands problèmes est l'incapacité...
Éducation aux médias ou à la sexualité?
Cette éducation aux médias dont je voudrais qu'elle soit présente dans l'éducation à la sexualité.
Hein, parce que finalement, vous l'avez déjà un peu dit, c'est lié. Et pourquoi les intervenants, alors, sont trop vieux? Alors,
il faut des gens qui ont un âge plus proche,
on ne dirait pas notre âge. Ici, autour de cette amie, il faut être plus proche de l'âge des
intervenantes qui sait rien du tout de ce qu'on voit sur les sites porno. Bon, et il y en a beaucoup hein, qui en parlent sans rien savoir, qui ne connaissent pas les chaînes YouTube, qui ne connaissent pas les blogs que vont voir les jeunes, qui ne savent pas s'orienter dans ce milieu-là. Eh ben, ça commence à être un problème pour parler avec des jeunes.
Tout bon, à fait.
Alors, c'est pas pour faire prendre leur retraite à certains intervenantes et intervenants, mais pour être entendu, quelquefois, ben, il faut pouvoir parler un peu le même langage.
Et c'est pour ça que c'est important, au planning, par exemple, dans la formation des personnes qui interviennent, parce que les personnes qui interviennent dans l'établissement scolaire sont formées, ça fait partie de la formation et c'est absolument essentiel. Parce que les jeunes vont sur les réseaux sociaux, voient tout ça, et je pense que c'est absolument important, et il faut pouvoir y travailler. Et donc, on a quand même un renouvellement de personnes
plus jeunes
qui peuvent intervenir.
Vous
je crois que c'est important.
Vous rassurez, en tout cas Michel Boson, Mikuni, sur l'aspect collectif de cette éducation sexuelle. Est-ce qu'on peut dire des choses, vous qui êtes psychanalyste, enfin les gens vous les voyez seuls et on dit pas du tout la même chose. Est-ce que on devrait pas aussi pouvoir avoir des échanges interpersonnels et dans un cadre éducatif sur ces questions-là pour pouvoir vraiment parler?
Je pense que la difficulté de l'éducation sexuelle consiste dans, je dirais, dans sa double fonction. D'un côté, il faut prôner la nécessité de la transmission de l'information, des savoirs éclairants et structurants, et donc rassurants. Mais de l'autre côté, je pense que c'est plus peut-être difficile à dire comme ça nettement, qu'on ne peut pas tout dire non plus. C'est pas qu'on cherche forcément à cacher des choses, mais du fait de la nature foncièrement intime de la sexualité humaine, qui n'est pas réductible aux fonctions biologiques et qui implique le registre relationnel, familial, social, sinon même politique, il y a certaines choses même qui échappent, je parle en psychanalyste, il y a certaines choses qui échappent même à la conscience de la personne. Donc je pense aussi que certains enfants se montrent gênés ou préférant se mettre un peu dans une attitude d'évitement. Je pense que c'est aussi une chose à respecter. Que ce n'est pas seulement, je pense que c'est aussi très important de respecter le rythme de besoin de savoir propre à chaque fois, ce qui évidemment rend la tâche assez compliquée lorsqu'il s'agit d'intervenir évidemment dans un cadre collectif.
Non, mais après, le cadre individuel peut s'inventer. Je voulais encore parler de deux choses. L'arrivée assez récente, on disait que c'était très biologique, mais il a quand même fallu attendre 2017 pour voir apparaître le clitoris dans des manuels d'éducation, enfin de biologie, tout simplement, et aux pages qui concernent la sexualité et même les organes reproducteurs. Et puis, aujourd'hui, il y a un activisme, on est parti sur un peu d'histoire, on peut parler du temps présent, féministe, et puis aussi de jeunes, particulièrement des femmes qui s'intéressent à la sexualité. Je pense à un compte qui est apparu la semaine dernière, qui s'appelle Ta Jouie sur Instagram, et qui a eu un succès foudroyant, qui a même été déjà assez médiatisé, et qui pointe l'ignorance des mécanismes de la jouissance, alors particulièrement des hommes, et puis parfois un peu des femmes qui racontent comment ça a été compliqué tout simplement de comprendre comment fonctionnait leur corps. Véronique, ça doit vous interpeller ça.
Mais oui, justement, et d'où l'importance effectivement de pouvoir parler de désir et de plaisir dans les séances d'éducation à la sexualité, et que ça ne concerne pas que les hommes, que les femmes ne sont pas là juste pour le désir des hommes, et que effectivement les femmes peuvent prendre du plaisir, et c'est très bien que des sites comme ça puissent exister. On n'est pas que dans du biologique, je crois qu'on s'appuie vraiment sur le développement de chaque enfant, sur le respect de la parole de chacun, mais sur aussi qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me fait pas plaisir. Et quand on fait de l'éducation à la sexualité avec des tout-petits, on va surtout parler de ça, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait pas plaisir.
Et on revient à la notion de consentement.
À la notion de consentement, à la notion aussi de prise de parole, de respecter la prise de parole de l'autre, etc. Enfin, je crois qu'on est à la fois dans des compétences sociales, dans des compétences de relation à l'autre, d'écoute, savoir écouter, savoir parler. C'est tout ça qu'on apprend aussi quand on fait de l'éducation à la sexualité. Pouvoir parler de son plaisir, pouvoir dire ses émotions, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille. Ça, je pense que c'est vraiment des choses qui sont essentielles et qui font aussi qu'on va pouvoir reconnaître que les filles pourront parler de plaisir, comme les garçons pourront parler de plaisir et de désir, et qu'on pourra s'entendre là-dessus et s'écouter là-dessus.
Michel Boson, comment lutter contre les rumeurs et les fausses informations qui sont répandues dès qu'on reparle d'éducation sexuelle ?
Il faut pas trop leur donner un écho. Hein, bon, parce surtout que c'est des gens dangereux et tirent la discussion vers le bas, toujours. Parce qu'on est toujours en train d'essayer de justifier l'éducation à la sexualité alors qu'elle existe depuis 50 ans. Comme si il s'agissait de l'instaurer alors qu'elle existe. Hein, bon. Mais je crois qu'il faut aussi éventuellement l'analyser et dire que c'est une panique morale assez classique sur les enfants et les jeunes, qui sont souvent le support des paniques morales. Et ça tient à trois éléments. D'abord, le fait que les adultes contrôlent de moins en moins la socialisation des jeunes à la sexualité, qui est de plus en plus horizontale, et ça les préoccupe. Donc, ça les préoccupe, c'est une chose normale, c'est dans l'ordre des choses. Mais, second point, des campagnes sont menées par des groupes réactionnaires pour faire peur et bloquer toute avancée, en s'appuyant sur cette préoccupation, qui n'est pas une panique, hein, forcément, c'est une préoccupation normale. Hein, bon. Et puis, en troisième lieu, je crois qu'il faut pas l'oublier, il y a la grande frilosité des politiques publiques dans ce domaine, une certaine absence de courage politique, qu'on avait pu voir dans le cas des ABCD de l'égalité il y a 4 ans, où c'était exactement le même type de campagne, avec les mêmes accusations, on devrait retrouver les mêmes personnes, hein, si on cherchait bien. Eh bien, ils avaient abouti au retrait de l'expérience pédagogique par le ministre de l'Éducation, hélas. Donc, s'il y avait un soutien politique plus fort à l'éducation à la sexualité, ça serait quand même bien.
Véronique Seyer.
Et puis, ce qui est très important pour compléter ce que dit Michel Boson, c'est de dire ce qu'on fait, de dire en quoi ça consiste l'éducation à la sexualité, qu'on fasse des campagnes positives pour dire pourquoi c'est important cette éducation à la sexualité, ce qu'elle produit dans tous les pays où elle est faite, où elle est intégrée dans les programmes. On voit qu'il y a vraiment beaucoup plus d'égalité entre les femmes et les hommes. On voit que les hommes s'intéressent davantage au sujet de contraception, par exemple.
Est-ce qu'il y a moins de violence ?
Et on voit qu'il peut y avoir aussi moins de violence. Je pense que c'est vraiment important de dire ce qu'on fait, de dédiaboliser cette éducation à la sexualité qu'on prend toujours comme un épouvantail.
Mi Kyung-hee, sur cette question de l'épouvantail aussi.
Oui, pour ma part, justement, l'épouvantail, je poserai la question, comment se fait-il qu'au nom de la protection de l'innocence, de la pureté des enfants, à travers ces discours, on en arrive à leur donner, voire à leur imposer une vision effrayante, monstrueuse, et voire violente de la sexualité humaine. Voilà, je leur retournerai la question.
Et puis, si on doit parler d'informer les enfants, peut-être aussi les protéger de certaines formes de violence qui sont aussi présentes quand elles existent dans la famille, puisque les violences sexuelles, statistiquement, c'est là qu'elles interviennent le plus. Véronique Seyé, sur ce point.
Oui, c'est vrai que effectivement la famille est le lieu le plus important des violences. Ce que je voudrais dire sur cette éducation à la sexualité, c'est qu'en fait, on est vraiment là sur on forme des jeunes à une forme de citoyenneté sexuelle. Je pense que c'est important, dans laquelle le consentement a sa place, mais qui s'inscrit bien dans des relations sociales. Et je crois que là, c'est peut-être ça, cette approche par les droits humains, elle permet ça. On forme des citoyens et des citoyennes qui sont effectivement en capacité de gérer leurs émotions, de gérer des pulsions, mais qui sont, ça participe à l'éducation citoyenne de chaque personne, de pouvoir faire en sorte que la sexualité qui est vécue au quotidien par tout le monde, de la façon dont on le veut, vraiment fasse partie des éducations, enfin de toutes les éducations dans l'établissement scolaire, mais aussi en dehors. Ça, je pense que c'est absolument important. Et pour rebondir sur la question des violences, c'est comme ça aussi qu'on fera de la prévention des violences sexistes et sexuelles, je pense.
Citoyenneté sexuelle. J'aime bien qu'on s'arrête sur cette idée. Merci beaucoup à tous les trois. Les références de vos ouvrages, dont Pratique de l'amour, tiens, paru en mars dernier chez la petite bibliothèque Payot par Michel Bozon. Des références aussi des sites internet dont on a parlé sur la page d'Être et Savoir, sur le site de France Culture, évidemment. On passe à la leçon de choses. C'est l'écrivain, chanteur, musicien Yves Simon qui s'est confié cette semaine à Sophie Bobert. Il a beaucoup, beaucoup aimé l'école.
Ah oui, c'était. J'ai que des bons souvenirs de l'école. Ça n'a jamais été un supplice pour moi. Où on me forcerait à aller à l'école. J'y prenais un plaisir. Mais vraiment, c'est difficile de dire ça aujourd'hui. Où tous les gens se vantent d'avoir été mauvais élèves. Ou d'avoir été feignants. Ou d'avoir séché l'école. Moi, je ne séchais pas. J'ai été premier, deuxième ou troisième de classe. Quand j'étais pas premier, c'est que j'avais eu zéro de conduite. On avait encore une note sur la conduite, 0 sur 20. Donc ça rabaissait ma moyenne, donc j'étais deuxième ou troisième. Et les filles qui sont gentilles, c'était elles qui étaient premières. Moi, j'avais des rêves, donc, de musicien. Après, ça a changé. Écrivain, c'est devenu plutôt à 18 ans, 15 ans, 16 ans. Et donc, je me disais, il faut toujours prévoir les deux coups, la bande à deux coups, c'est-à-dire faire des études, avoir des diplômes, au cas où l'aventure créatrice ou l'aventure artistique ne fonctionne pas. J'ai toujours réfléchi comme ça. Par exemple, quand je suis venu à Paris et que j'ai préparé l'IDEC, l'école de cinéma.
Actuellement, la FEMIS.
La FEMIS, oui. J'étais en même temps à la Sorbonne quand je préparais cette école. Et je me suis toujours dit que je pourrais donc, à 30 ans, si je n'avais pas fait quelque chose d'intéressant, d'important, puis au moins être prof. Et je me disais journaliste. Voilà, les deux choses, c'était mes portes de sortie et ça me plaisait énormément.
Vous étiez très prévoyant, en fait.
Oui, je crois. C'est-à-dire, quand on est pauvre, il faut dire le mot et pas avoir peur de le dire, et ce n'est pas de la vantardise. Quand on est pauvre, on se dit comment déjà en sortir de cette pauvreté pour avoir une respectabilité, ce qui n'est c'était pas tout à fait le cas à Contrexéville. Mon père cheminot, bon, c'est pas grand-chose un cheminot aux yeux des gens, évidemment. J'avais besoin peut-être de considération, donc à la fois pour moi et ma famille, que mes parents soient fiers de moi. Et ça, c'est important aussi. Si on n'a pas été aimé, on n'a pas envie de récompenser ses parents, si j'ose dire. Donc cette prévoyance, je crois qu'elle vient d'une condition sociale, tout simplement.
Est-ce exact, Yves Simon, est-elle exacte cette histoire qui dit que lors de l'un de vos premiers Noëls, vos parents ont glissé dans vos cadeaux une ardoise? Et est-ce ainsi que la magie de l'écriture a opéré pour vous?
Oui, alors, c'est-à-dire le complet cadeau, c'est une petite paire de bottes en caoutchouc noir avec une ardoise posée dessus. Et je pense que c'était un de mes plus grands plaisirs de Noël de ma vie. Et ça, c'était vers, puisque je m'en souviens, c'est 5 ans, quoi, 5, 6 ans. Et c'est a posteriori que je me dis, alors l'ardoise pour écrire et les bottes pour marcher, voyager. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie à peu près.
Récemment, Juliette Armanet, qui a participé à l'album Générations éperdues, hein, un album de reprise, un album hommage, a qualifié votre écriture de littéraire et de sauvage. Alors, est-ce que lorsque vous aviez 20 ans, Yves Simon, au lycée Voltaire ou à l'IDEC, votre écriture était déjà qualifiée de littéraire et de sauvage?
Littéraire, je m'en souviens, oui. Sauvage, les profs n'osent pas peut-être prononcer ce mot, donc je laisse à Juliette ce compliment qui me convient très bien, parce que j'ai bien connu Brassens, Gainsbourg aussi. Gainsbourg, j'écrivais sans limiter, mais comme Gainsbourg. Comme Gainsbourg, je veux dire par là, très vite. Très vite, d'une manière sauvage, justement. C'est-à-dire, quand je composais et que je prenais les premiers mots d'une chanson, ça allait en même temps, c'est-à-dire j'étais capable d'écrire « Au pays des merveilles de Juliette » en un quart d'heure, une demi-heure, quoi, voilà.
Vous marchez, Juliette?
Yves Simon, nous sommes à la lisière de la rentrée scolaire. Comment est-ce que vous sentiez lorsque vous étiez élève et que c'était bientôt la rentrée scolaire? Est-ce que vous étiez ce genre de gosse ravi d'aller à la papette, acheter ses nouveaux classeurs, ou est-ce que vous aviez des nœuds au ventre?
Oui, j'adorais retrouver l'école parce que je pense, comme fils unique, j'étais plutôt seul l'été et donc j'avais hâte de retrouver mes copains à l'école.
Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguette. De l'autre côté du miroir d'un café.
Et si vous aimez Yves Simon, sachez qu'il peaufine actuellement ses mémoires. Elles paraîtront en mars chez Flammarion et on peut vous donner le titre dès maintenant dans Être et Savoir, une vie comme ça. Vous pouvez podcaster la leçon de choses de Sophie Bobert et même toute l'émission, évidemment sur le site de France Culture ou sur tous les sites où on peut podcaster des émissions. Je remercie toute l'équipe d'Être et Savoir. Angélique Thibault à la réalisation, Pierrick Monsigny à la prise de son, Avril Ventura qui m'a aidé à préparer ce premier numéro. Encore un mot pour vous dire que demain, la série documentaire LSD vous propose toute la semaine un cycle sur l'école. Bon, on y revient. L'école républicaine au péril des inégalités scolaires et c'est signé Alain Lefkovitch. Quant à nous, la semaine prochaine, nous parlerons eh bien aussi d'école, la manière dont l'école regarde l'enfant avec Ramin Farangui qui a ouvert une école où les enfants font ce qu'ils veulent et Philippe Mérieux, le pédagogue qui publie La Riposte pour en finir avec les miroirs aux alouettes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée sur France Culture.